Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. S'il y a un livre qu'il m'était impossible d'ignorer pour enrichir cette émission et hors des studios de Divergence FM lui donner de l'air, c'est bien le Lexique amoureux de Montpellier. Paru en 2019 aux éditions Kern, il raconte la ville de 86 manières par autant de petits textes et de maintes manières, évocations, témoignages, portraits, récits, panoramas, des lieux, des monuments, des activités, des personnages et aussi, me semble-t-il, un certain art de vivre propre à Montpellier apparaissent au fil des pages. Mon invité est Jolie Déco. Bienvenue à vous. Vous avez conduit la conception de ce guide où l'intime, le personnel se conjugue avec le commun, le collectif. Vous avez rassemblé 12 auteurs de différentes espèces dont on devine ce qu'ils partagent. Ils et elles observent, flânent, savourent, contemplent et souvent nous entraînent derrière eux. On va donc les citer. Françoise Bender-Clépandi, Jean-Paul Bocage, Marine Bohain, Ise Delbos, Elisabeth Ferrier-Houpigny, Jean-François Gamba, Jacques Molena, Christian Montaignac, Georges Roch, Marie Susplugas, Mélanie Taquet et Didier Thomas Radu. Un commentaire, parité parfaite, 6 hommes, 6 femmes.
Même pas fait exprès.
Même pas fait exprès, nous dit Jolie Déco. Jolie Déco, dans votre parcours, on peut noter un fil conducteur, les gens, l'humain. En effet, vous avez été travailleur social à l'association Le Nid à Montpellier, l'association qui accompagne les prostituées, puis journaliste à la Gazette de Nîmes, puis à la Gazette de Montpellier, où vous suiviez la vie culturelle. Après un passage dans la communication, et notamment en tant qu'intervenante à l'enseignement Infocom à l'Université Paul Valéry, vous avez rejoint complètement le monde de l'éducation comme responsable du dispositif Devoir fait, on imagine ce dont il s'agit, au collège Paul Dardé à Lodève. Et aujourd'hui, vous êtes enseignante au lycée agricole Vallée de l'Hérault à Gignac. Alors commençons par parler du livre. Dans quelles circonstances avez-vous été sollicité pour en diriger la réalisation? Parce que c'était une première que ce travail pour vous.
Oui, complètement. Et j'ai d'ailleurs été assez surprise d'être contactée par la maison d'édition Kern.
Qui vous avez repéré, donc.
Oui, j'étais surprise parce que ça faisait déjà de nombreuses années que je n'habitais plus sur Montpellier, que je n'étais plus journaliste et que j'étais excentrée donc, sur le territoire du Larzac. Mais ils ont insisté, mon nom leur avait été recommandé.
Ah.
Et ils cherchaient, alors c'est une collection de lexiques amoureux, ça a déjà été fait sur plusieurs villes, et ils cherchaient pour Montpellier quelqu'un qui ait de la distance avec la ville, qui connaisse des personnes d'horizons différents et qui n'ait pas forcément un ton très lissé.
C'est ça, qui est un recul ou un regard.
Oui.
Qu'il ne soit pas bon, celui... Bon,
alors, il voulait quelque chose...
Par l'office de tourisme, par exemple.
Complètement. Il voulait quelque chose d'amoureux, mais sans concession pour autant. Quelqu'un qui soit capable d'aimer la ville, mais aussi de la critiquer.
D'accord. Alors, donc, vous l'avez dit, bon, cet éditeur qu'on a publié, avait publié et a publié depuis d'autres lexiques amoureux, Montauban, Tarbes, Toulouse, les Pyrénées, le bassin d'Arcachon, Sète, ainsi que Pau, où cette maison d'édition, sauf erreur, est installée.
Oui.
Alors, premier travail, c'est quand même avoir une idée d'ensemble pour réaliser le livre, le composer. Comment avez-vous procédé? Parce qu'en repérant des thèmes et en cherchant qui pouvait en parler de manière intéressante, ou le contraire, là, comment cette alchimie-là s'est-elle réalisée?
Alors, c'était un peu des deux, parce que j'ai eu un travail de réflexion de pas loin d'une année au départ pour essayer de savoir qui j'allais inviter, trouver des personnes qui acceptent, qui rentrent dans l'espèce de charte que je m'étais donnée. Et puis, je voulais absolument aborder certains thèmes, bien sûr, sur l'architecture, l'histoire des grands personnages. Mais je voulais pas que ça. Je voulais des choses différentes et je voulais absolument que ça puisse faire écho aux personnes que j'allais inviter. Donc, oui, j'avais des thèmes précis au départ que je voulais aborder, que j'ai proposés. Mais je voulais également que les auteurs puissent eux-mêmes faire des propositions pour pouvoir essayer de ne pas apporter que mon regard sur la ville et essayer de composer un ouvrage qui puisse plaire à un maximum de personnes possibles. Donc il y a vraiment de tout dans ce livre. C'est et ça. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout aimer, mais en tout cas, forcément, n'importe qui, en l'ouvrant, va trouver quelque chose qui va le toucher. Parce qu'on va autant parler d'une DJette que du père Douméron, que de Louis Nicolin, que, voilà, de plein de choses extrêmement différentes.
Oui, ça on le voit bien. C'est bien parce qu'il y a un croisement des regards, mais qui est pas, qui me semble-t-il, pas simplement une juxtaposition, mais cet ensemble fait sens en même temps, produit un portrait à 86 facettes ou à 12 facettes, ceux qui ont écrit, qui racontent quelque chose en même temps, qui donne un fil conducteur, quand même, même s'il est presque impalpable, quoi, en tout cas.
Ce qui fait sens, c'est oui, ce fil conducteur, c'est que l'objectif, c'est de parler d'une ville qu'on aime ou quoi qu'il arrive. Il n'y a personne dans ce livre qui déteste Montpellier. Il y a ce regard qui est critique, mais critique dans les deux sens du terme. Donc tout le monde se retrouvait sur cette idée commune. Et j'ai volontairement beaucoup insisté auprès des auteurs, et ça a été difficile pour certains parfois, notamment les journalistes, de leur demander de parler parfois la première personne.
Ah, je l'avais remarqué, ça.
Voilà. Ouais. Et pour des personnages comme Didier Thomas-Radux, ou encore plus Jacques Molena, parler à la première personne, ça ne leur était jamais arrivé. Donc, il a fallu un peu les travailler au corps pour qu'ils arrivent à se livrer personnellement à certains moments.
Ça. Alors, ça, je l'ai remarqué très vite, parce que, bon, les auditeurs ne le savent pas, mais je suis un passif de journalisme, hein, de 26 ans de journalisme, il y a longtemps, et donc, l'irruption du jeu, elle est un peu iconoclaste, quoi, elle rompt avec les codes, et ça, voilà. Donc, du coup, c'est ce que je disais, il y a quelque chose de personnel dans chacun des textes, une implication de chaque auteur... dans sa manière de raconter un petit morceau de ce qu'est Montpellier.
Oui, complètement, de son histoire, de son attachement à la ville, d'anecdotes, d'expériences. Je voulais absolument que ça puisse représenter un moment de leur vie qui était important pour eux.
C'est ça.
Voilà.
Et donc, me semble-t-il, certains se sont interrogés sur leur qualité de Montpellierain en définitive. Qu'est-ce que c'est pour moi être Montpellierain ?
Oui, et puis en plus, alors il y en a qui sont d'ici, il
ouais.
y en a qui étaient qui arrivaient d'ailleurs, qui étaient là depuis longtemps ou depuis moins longtemps, et puis il y en a qui en étaient partis aussi.
Ah,
et dans le choix des auteurs, je voulais tout ça. Voulais voilà de tout, avec des gens qui avaient un regard plus ou moins distant sur la ville, au niveau du temps, au niveau de l'espace. Et c'est ce qui fait aussi que les regards sont complètement différents, et notamment même quand parfois il leur arrive de parler des mêmes choses.
Oui, c'est ça. Ça pourrait apparaître comme des doublons dans une autre approche. Mais c'est parce que c'est deux personnes qui parlent la même chose, sont côte à côte, mais chacune avait sa propre perception.
Complètement. Ouais, et puis il y a aussi le fait qu'il y ait des âges fondamentalement différents. Ah, ouais. Je crois que la plus jeune à ce moment-là avait 30 ans, le plus âgé avait pas loin de 80 ans. Donc on a des auteurs qui sont issus de générations différentes, avec des histoires avec la ville qui sont aussi complètement différentes.
Voilà. Alors ça, voilà. Bon, après, bon, chaque lecteur en jugera. En plus, comme on l'a compris, c'est un livre qu'on peut lire pratiquement de la page 1 jusqu'à la fin, mais par petits bouts, par cueillette,
je dirais, dans le désordre,
par vagabondage dans les pages. Selon les thèmes évoqués. Alors, il y a bien sûr des lieux, hein, bon, c'est des inévitables qui figurent sur les cartes postales, hein, Antigone, les Arceaux, la Comédie, le Pérou, par exemple. Mais quels sont les thèmes inattendus auxquels vous donnez une place ? Vous l'avez mûri pendant un an, donc son contenu, le choix des différents thèmes, c'est précisé, organisé au fur et à mesure, mais il y a de l'inattendu. Est-ce que c'était là aussi un de vos choix de mettre sur la place publique, hein, un regard sur une petite chose à Montpellier, peut-être méconnue ou même carrément inconnue, que le livre contribue à raconter, voire à révéler?
C'est ce que j'ai demandé justement aux auteurs. Je leur ai dit, on ne peut pas passer outre certains classiques, parce que le lexique amoureux est là pour faire découvrir la ville. Donc on était obligé quelque part de donner un petit peu ce côté carte postale, on va dire, ou présentation générale de la ville. Mais je leur ai imposé, on va dire, de réfléchir à faire connaître des lieux qui n'étaient pas forcément connus du grand public ou très méconnus. Et je me le suis imposé à moi-même quand j'ai écrit certains items. Et c'est justement pour pouvoir partager des choses encore plus intimes. Et je pense que ça a vraiment bien fonctionné, notamment, je vois, quand Iseu
Delbos... Oui, donnez-nous quelques exemples de ces perles qu'on découvre. Là.
Iseu Delbos, qui est une femme formidable, elle est assistante sociale de métier, mais elle a une plume extraordinaire. Elle, par exemple, elle est complètement fan de la paillade, mais elle a voulu la décrire d'une façon très particulière, et notamment sur le refus des Montpelliérains d'accepter le fait que le quartier soit...
La dénomination, la Mousson,
voilà.
Ce sujet, on l'a évoqué dans une précédente émission.
Et j'aimais bien cet éclairage un peu chauvin sur le quartier et sur l'accueil aussi que lui réservent à chaque fois les habitants. Elle aussi, elle a fait quelque chose sur les Bordulaises, qui est très très politique, ou encore sur la réserve Rimbaud. Ok, c'est un grand lieu de Montpellier, mais vu par les yeux de petite fille de sa grand-mère. Ouais, et là, je trouvais que c'était très original. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a le Barberousse dont parle Mélanie Taquet, qui est un haut lieu de la fête chez les jeunes, mais on aurait pu citer plein d'autres lieux comme ça sur Montpellier, mais là, il y avait...
Oui, il y a bien sûr des partis pris. Hein,
oui, bon, complètement.
Il n'y a pas l'objectif d'une exhaustivité, si ce n'est la diversité.
Et c'est complètement assumé, c'est des coups de cœur, donc on ne peut pas citer tout le monde. Et pour ma part, moi, j'ai voulu parler du Wat Ksing Kong.
Oui, alors...
Voilà.
Alors, dites aux auditeurs ce dont il s'agit.
Alors, en fait, c'est une pagode qui a été construite par la communauté laotienne derrière le stade de rugby, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, je pense, sous la direction de Buneng Saigzavonza. J'écorche un peu son nom, excusez-moi. C'est le plus montpelliérain des Laotiens que je connaisse. C'est un monsieur que j'ai rencontré il y a pas loin de 30 ans, quand j'envisageais de partir voyager au Laos, et quand j'ai envisagé d'y travailler aussi, qui m'a beaucoup aidée dans mes pérégrinations là-bas. Et j'ai toujours gardé un bon contact avec lui. Je le rencontrais régulièrement quand j'étais journaliste à la Gazette, et j'avais suivi son projet de construction.
Oui, et la construction, étape après étape, bien sûr, un peu longue, parce qu'il faut de l'argent, il faut faire venir des matériaux.
Et ils ont tout fait eux-mêmes. Ils ont tout fait eux-mêmes à force d'organiser des fêtes.
Je cherche le nom du quartier, c'est derrière le stade de rugby, en effet. Ah, bref. Mais on le découvre, là. On le découvre.
Alors, c'est sur une petite place qui s'appelle maintenant la place du Laos.
Voilà. À côté d'un EHPAD, là, qui est un peu en contrebas. Et en plus, moi, j'habite pas très loin. J'avais fait une photo. Il y avait des bambous qui étaient le long d'un petit ruisseau, là, avec le temple derrière. Et j'ai envoyé cette photo à ma fille en disant on est en voyage. Voilà,
parce que mais c'est exactement
c'est un dépaysement qui est, voilà, et inattendu aussi.
Et donc, c'est la réplique d'une pagode qui existe à Luang Prabang, qui est l'ancienne capitale royale de Laos, que j'ai visitée. Et donc, quand je vais là-bas, j'ai l'impression de me retrouver au Laos où j'ai passé tant de moi. Ouais. Et j'adore ce peuple laotien. Ils réalisent chaque mois une grande fête. Ils trouvent toujours une occasion pour faire la fête. Il y a toujours une bonne excuse. Et ils accueillent absolument tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Et c'est génial.
Voilà. Donc, on comprend comment fonctionne le livre. Autre caractéristique de livre, me semble-t-il, il s'adresse bien sûr aux Montpellierains, un peu comme un miroir ou un multifacette qui leur est tendu, mais également ça peut être un livre pour découvrir la ville en tant que visiteur ou nouvel habitant.
Oui, complètement, parce qu'on découvre justement les grands classiques, les choses un peu plus secrètes. Et comme vous le dites, ça s'adresse aussi aux anciens Montpelliérains, parce que ça peut faire appel à certains souvenirs, notamment...
Pour entretenir la nostalgie,
et
peut-être.
Oui, complètement, parce que j'ai des auteurs qui sont très nostalgiques. Jean-François Gamba, par exemple, a pas mal parlé du quartier Le Maçon, de l'arrivée des rapatriés. Donc c'est toute une époque qu'il a vécue, il partage des souvenirs autour de ça. Il parle aussi de la place de la Comédie, de l'évolution de la place de la Comédie, les magasins qui ont disparu, remplacés aujourd'hui par une banque, par le McDonald's, etc. Donc oui, il y a aussi ce côté nostalgique qui montre aux anciens qu'on n'a pas oublié comment était Montpellier autrefois, et puis qui raconte l'évolution de la ville et comment elle a grandi. Et puis après, il y a des articles qui vont être un petit peu plus... étoffé au niveau de l'analyse de l'économie, de la politique, de l'évolution de la population grâce à certains chiffres.
Oui, Georges Roque,
par exemple, c'est ce que j'allais dire. Oui, Georges Roque a été vraiment très précieux pour ça, parce qu'il a fait une très très belle analyse de l'évolution de Montpellier en tant que métropole, et de la façon dont comment elle se place au niveau de la région et même au niveau national. Et pas que au niveau économique ou politique, mais aussi au niveau du sport, par exemple. C'était une approche assez originale.
Oui, alors ça, les thèmes, il y en a un très grand nombre, on y reviendra. Alors, on trouve aussi, bon, bien sûr, des figures. Hein, bon, Georges Frêche, inévitable, dans le porté troussé par quelqu'un qui l'a observé pendant 30 ans, Jacques Molina, son compère, Louis Nicolin, les frères Poursen, notamment, et puis d'autres personnes de faible autorité, dont on a un peu entendu parler ou pas du tout, dont deux, sous votre plume, le père d'Ouméron Ouzita. Alors, pour donner aux auditeurs et auditrices une idée de ce que c'est, bon, pourquoi le père d'Ouméron, pourquoi Zita? Parce que ça relève bien sûr d'un choix personnel, mais alors, qui semblait trouver sa place dans ce panorama, quoi, j'allais dire, dans cette saga de Montpellier.
Alors Zita, c'est Marine Bohain, qui était chroniqueuse YouTube à l'époque et est devenue journaliste, qui l'a croquée. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire moi-même son portrait, parce que je l'ai rencontrée il y a pas loin de 20 ans de ça, alors qu'elle débutait comme DJ. Je l'avais rencontrée avec son papa, qui est un grand collectionneur de vinyle. Et elle détonnait complètement dans cet univers très, j'allais dire macho, c'est peut-être un peu réducteur, mais très masculin, très masculin, voilà, du monde de la nuit. Et elle avait ce côté petite fille, toute frêle, toute fragile, mais quand elle passait derrière les platines, c'était quelque chose d'absolument délirant. Alors moi, je ne suis pas très branchée techno, mais c'est vrai, quand je l'ai vue faire des sets, j'étais complètement bouleversée, chamboulée dans mes habitudes sur la vie la nuit, parce que moi, j'étais plutôt branchée rockstar, rock'n'roll. Et j'ai vraiment craqué sur sa façon d'enchaîner les morceaux et sur sa manière d'être, très fragile. Marine Bohain, qui a été une grande fêtarde, je peux le dire, sans la faire rougir, sur Montpellier, connaît très bien ce milieu, et encore mieux Zita, donc c'est elle qui...
bien placée pour
très, très bien
raconter cette personne.
Donc c'est vrai que je trouvais que c'était bien de pouvoir parler de cet aspect-là de la nuit montpelliéraine, mais à travers un aspect qu'on connaît moins, celui de cette fameuse Zita, qui est vraiment une fille très chouette. Après, pour le père d'Ouméron, c'est...
C'est une rencontre.
Ah, c'est un coup de cœur, le père d'Ouméron. Je l'ai rencontré il y a très longtemps. C'était par le biais de mon meilleur ami qui organisait le 100e anniversaire de sa grand-mère et où tous les amis de la famille étaient présents dans cette grande salle. Et au milieu de tout ce monde, il y avait cet homme qui dégageait une espèce d'aura très particulière. Le père d'Ouméron me présente, il était avec une coupe de champagne à la main, puis une autre, c'était un très bon vivant. Et j'ai passé une grande partie de la soirée avec lui, où il me parlait de sa vie, un peu de son œuvre, et j'ai complètement craqué et fondu. Alors,
on a une vraie rencontre.
Une super rencontre, ouais. En plus c'était amusant parce que très rapidement, moi je lui ai dit que j'étais pas très catholique. Même pas du tout, pas du tout dans la religion. Donc,
ça n'a pas mis fin à vos échanges.
Mais bien au contraire, lui, il adorait ça. Il n'était pas du tout dans le prosélytisme, il était vraiment sur un échange, sur des tas de choses, sur les gens qu'il aime, sur la culture, sur sa vision de la ville de Montpellier. Puis surtout, ce qui m'avait marqué, c'était sur sa volonté de créer de l'échange et une espèce des rencontres pour qu'il y ait plus de fraternité entre les gens. Et cet homme a créé une radio sur Montpellier, il a créé le festival du cinéma chrétien, c'est lui qui a organisé la grande messe de l'an 2000, enfin il a fait énormément de choses comme ça, et surtout il rassemblait autour de lui énormément de gens.
Et des gens différents pour le coup.
Et qui n'étaient pas forcément ses paroissiens, et pas forcément des gens dans la religion. Et il avait ce don-là de pouvoir réunir les gens, mais bien au-delà de sa confession et de son rôle de prêtre. Voilà, il est mort il n'y a pas très longtemps. J'en ai été très peinée, mais j'ai été heureuse de pouvoir le rencontrer une paire d'années avant pour pouvoir justement échanger avec lui sur ma volonté de parler de lui dans mon livre. Alors, il était très timide et puis sur le coup, il m'a passé un savon. Il m'a dit « j'ai rien à faire là-dedans, il y a déjà eu des trucs de dit sur moi, il faut faire la place aux jeunes, j'ai plus d'actu, enfin... » Voilà,
tous les prétextes pour échapper là, au portrait.
Voilà, mais j'avais pris avec moi, j'avais imprimé ce qui était raconté sur lui sur Wikipédia.
Ah oui, il avait quand même une page de Wikipédia, ce qui n'est
pas le fait. Et donc je l'ai fait lire. Et il en revenait pas que sur Internet, il y ait autant d'informations aussi précises sur toute sa vie. Et en fait, j'ai monté tout mon item sur lui à partir de ses réactions, justement, sur ce qui se racontait sur Internet. Et c'était assez amusant parce que, notamment, vers la fin, l'article de Wikipédia mentionne sa rencontre avec Georges Brassens. Il avait interviewé Georges Brassens quelques mois avant son décès. Je crois que c'était pour France 3, pour une interview sur Dieu et la mort et l'amour dans tout ça. C'était Madeleine Attal qui avait organisé cette rencontre. Et il avait passé un moment extraordinaire avec Georges Brassens. Et je crois même que l'interview peut être entendue encore aujourd'hui sur Internet. C'était une rencontre assez insolite.
Alors, ce que nous raconte Julie Lécaux, vous l'avez compris, c'est que ça montre que ce livre, ça peut être la résultante d'une déambulation solitaire, d'une rêverie. Il y a des papiers qui sont autour de ça. Et en même temps, d'un aspect plus collectif, hein, bon, la fête, la rencontre, etc. Donc, alors, à vos yeux, avec le recul que vous avez sur ce travail, bon, 3 ans après, à peu près, ou 2 ans et demi après, quelle est l'alchimie particulière que ça a produit ? Parce que entre la conception du livre dans sa phase initiale, le recueil des textes, l'échange avec les auteurs, la mise au point de certains textes, le livre est bouclé, il sort, il vit sa vie, donc... au bout du compte, qu'est-ce que ça a donné ? Parce que, bon, j'imagine, dans votre parcours, ce travail, cette œuvre, a une place particulière, quoi, qui persiste, même si elle se transforme au fil des années. Mais voilà, il y a le livre et tout ce qu'il a donné, quoi, pas simplement, voilà, un objet qu'on peut acheter dans une librairie, quoi. C'est un épisode de votre vie.
Ah, c'est un gros épisode. Je disais il y a quelques années, c'est un peu mon troisième enfant. Parce que j'ai quand même dû le...
Oui, il y a une gestation qui a été...
Ah, il y a une gestation qui a été...
qui a duré plus de 9 mois, pour le coup.
Oui, ça a duré 2 ans. C'était un peu pachydermique, voilà, on va dire. Donc ça a été très long. J'ai été extrêmement soulagée quand il est sorti, parce que ouais. il y a plein d'angoisse sur le fait de se tromper, qu'il y ait des coquilles, que ça plaise pas. Et il y a eu la sortie, avec un accueil, mais vraiment remarquable.
Ouais. Des interviews, des rencontres avec les lecteurs, etc.
Vraiment, il y a eu plein de presse, et puis on a été invité à la Comédie du Livre, on a été invité à la médiathèque Émile Zola, au Gazette Café. Là où j'ai eu un accueil qui m'a vraiment extrêmement touchée, c'est sur la ville de Lodève. La mairie de Lodève, en collaboration avec la librairie Un Point, Un Trait, que je remercie encore aujourd'hui, ont carrément organisé toute une semaine consacrée au lexique amoureux sur la ville.
Ah, une semaine, d'accord.
Ouais. Avec une exposition de Jean-Paul Bocage, qui est l'un des contributeurs.
Un peintre, là, qui est un des contributeurs, qui a pris la plume plutôt que le pinceau, pour le coup.
Avec, ils ont reçu et interviewé, en collaboration avec Radio Lodève, plusieurs des auteurs, dont Georges Roch, Jacques Molena. Et on a organisé aussi à la médiathèque une séance de lecture musicale. Et là, c'était Babette Ferrer, qui est la violoniste de Dionysos et qui est aussi chanteuse solo, qui avait fait toute la musique qui accompagnait la lecture des textes. Et là, il y avait 9 des 12 auteurs qui étaient présents ce jour-là. Donc oui, là, ça a été...
Donc il y a eu, c'est ça, il y a eu ces suites-là, hein,
ouais.
Donc, sous diverses formes.
Très chaleureux.
Dans les semaines et mois qui ont suivi.
Et puis des belles rencontres avec des gens qui le découvraient, qui n'étaient pas d'ici et qui avaient visité la ville à travers le lexique en allant voir des choses qu'ils ne pensaient pas aller voir, comme par exemple la Villa des Sans Regards, qui est quelque chose d'assez unique, qui sont amusés à essayer de trouver les plaques sur Napoléon dans les rues de la ville, comme en parle Didier Thomas Radux, des choses comme ça. Et puis il y a aussi les anciens Montpelliérains qui sont venus et puis qui disaient merci d'avoir parlé de la place de l'œuf dans les années 50, d'avoir parlé du père d'Ouméron, parce que personne n'en a beaucoup parlé ces dernières années, d'avoir fait un clin d'œil sur des gens un peu moins connus. Et ça a été vraiment des retours très chaleureux pour la plupart. Et puis après, il y a eu la période Covid.
Oui, qui a mis frein sur beaucoup de choses.
Donc ça a freiné malheureusement pas mal de choses au niveau de la promotion du livre. On était un petit peu triste de ça, mais bon, il continue à se vendre tout doucement. Et puis il m'arrive encore de rencontrer des gens, comme là, il y a 3 semaines, j'ai rencontré un ancien maçon à la retraite. dans le cadre, dans un cadre privé, et puis qui est arrivé avec son lexique et qui m'a demandé une dédicace, voilà, des années après la sortie. Ça m'a amusé et beaucoup flatté aussi, j'avoue.
Alors maintenant, Julie Déco, quelques minutes nous restent. Bon, vous allez nous raconter, bon, un peu de monde pour le coup, là, votre Montpellier. Vous n'habitez plus à Montpellier.
Ah, depuis longtemps.
Vous avez habité Saint-Étienne-de-Gouas, maintenant l'Audève. Est-ce que vous avez voulu prendre du recul, fuir la ville en définitive? Vous aimez Montpellier, bon, je pense que ce n'est pas démontré à nouveau, mais est-ce qu'il y a eu ce recul, cette prise de distance, avec, bon, qui tient bon, vos choix de vie, bien entendu, hein.
Alors un peu, oui, après ça tient beaucoup à ma personnalité, là d'où je viens, je suis originaire d'Auvergne et plus particulièrement de Haute-Loire. Donc j'ai essentiellement grandi dans un petit village de 300 âmes qui est un petit peu au-dessus du Puy-en-Velay. J'ai quitté le centre de la France pour venir à Montpellier, ben, comme je vous disais, pour le travail et puis parce que j'étais attirée par le côté très rock'n'roll de la ville. J'étais venue adolescente faire des soirées au Rockstore et je rêvais de vivre dans cette ville. Et quand je suis arrivée ici, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup profité. Je me suis régalée au niveau du travail. J'ai été journaliste, j'ai découvert des gens extraordinaires, très multiples et variés. Et grâce à la Gazette où je travaillais, je m'occupais d'une rubrique qui s'appelait « Mes bons plans » où chaque semaine j'avais un invité qui me donnait toutes ses bonnes adresses sur la ville. Et j'ai fait ça pendant longtemps, donc j'ai vraiment découvert Montpellier sous toutes ses facettes. Et j'ai beaucoup fait la fête. Beaucoup, beaucoup. Je me suis régalée. Après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai un peu voyagé en Asie du Sud-Est. J'y suis quand même pas mal restée. Et c'est un retour de voyage que je suis arrivée en ville. J'habitais le centre-ville et j'étais un petit peu assaillie par l'oppression urbaine, on va dire. Et là, j'ai décidé de partir vivre à la campagne, mais d'accord, pas trop loin. Donc ouais, je suis allée vivre à Aumelas, puis dans le Larzac, mais je voulais toujours rester près de Montpellier, parce qu'il y a plein de choses que j'adore à Montpellier, et je veux pouvoir y revenir quand je veux. Donc j'ai le côté agréable de la campagne, mais j'ai le côté aussi agréable de la ville, sans en subir les
inconvénients. Voilà. Alors précisément, bon, vous l'avez évoqué, la ville a beaucoup grandi, hein, population, surface, bon, ce phénomène-là. Quel jugement vous portez là, sur cette mutation très forte, cette croissance montpellierenne? Voilà. Comment en parlez-vous, par exemple, je dis, à des personnes de votre famille ou de votre entourage qui viennent à Montpellier? Comment vous racontez Montpellier, quoi? Parce que bon, Montpellier d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 30 ans.
Et voilà, j'en parle de deux façons, justement. Un aspect assez critique. Je suis là depuis pas loin de 30 ans, donc je fais partie de ces gens nostalgiques de comment était Montpellier quand je suis arrivée.
Il y a quelque chose qui s'est perdu.
Oui, je trouve qu'il y a trop de brassage. Il manque l'âme que j'aimais bien au départ, avec peut-être plus de gens du cru. C'est peut-être plus anonyme. Je râle, comme plein de gens, sur les embouteillages, sur le fait que ce soit un peu crasseux, des choses comme ça. Mais après, ce que je dis aussi, c'est que j'aime bien ce côté qui fait que Montpellier se renouvelle en permanence. Ouais. C'est un petit peu comme les dalles de la place de la Comédie. Elles sont un peu usées, bah, ça y est, là, on va lui redonner un nouveau souffle. Et la ville, elle est un peu comme ça. C'est que, bah, y a des choses qui disparaissent, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Et il y a des nouvelles choses qui sont vraiment belles. Et notamment au niveau culturel, au niveau de la restauration. Alors, je regrette certains lieux en restauration, comme le Pou qui pleure qui a été mon QG, etc. Mais j'adore aujourd'hui, par exemple, découvrir nouvelles tables comme j'ai noté.
Alors oui, justement.
Le hangar.
Les bons plans, faites profiter.
Alors
nous,
là,
les auditeurs,
j'ai deux adresses.
Un ou deux bons plans pour clore cet échange.
J'ai deux adresses et une personne à recommander. Et c'est un restaurant dont je suis vraiment tombée amoureuse qui s'appelle le hangar, qui est rue Saint-Firmin, qui est vraiment exceptionnel.
Quelle couleur
magique
de la cuisine?
C'est multicolore. Voilà, c'est à découvrir. C'est très surprenant. Et vraiment des saveurs et des textures que j'ai rarement eues en bouche. La deuxième chose, c'est un caviste. C'est la cave en goguette, qui est rue du Faubourg du Courreau. Et qui aussi, c'est une cave qui propose aussi un large plateau de fromage. Et ces gens-là ont une sélection de vins qui est très originale. Et pas que d'ici. Et c'est bien aussi de s'ouvrir un petit peu
les papilles
des choses d'ailleurs.
Au-delà de Montpellier.
Et une personne que je regrette de ne pas avoir mise dans le lexique amoureux, mais il fallait faire des choix, c'est un monsieur qui s'appelle Gilles Marchal. Ce monsieur est arrivé sur Montpellier il y a 17 ans. Il est originaire de Gignac et il est parti vivre pendant 30 ans aux États-Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu l'ouragan Katrina et il fait partie des réfugiés de Katrina. Et depuis, il vit à Montpellier où il est pianiste de jazz au Trinque Fougas.
Au Trinque Fougas, une grande adresse montpellierin également.
C'est un homme fabuleux et j'invite tout le monde à aller le découvrir et écouter sa voix.
Merci Julie de toutes ces incitations à la découverte ou à la redécouverte de Montpellier. Et à une prochaine fois.
Merci.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.